Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va reparler de Shadow. Y a-t-il une lueur au bout du tunnel pour Shadow PC, le service français? Bien sûr, on va aborder plein d'autres sujets tech en ce vendredi matin. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, attendez juste un petit réglage, voilà, et on remercie le sponsor de cette émission ExpressVPN, je vous en reparle tout à l'heure. Je voudrais également remercier, j'ai vu qu'il était dans la chatroom, Brezand qui nous a envoyé ce magnifique mug breton avec tous les, j'essaye de faire le focus là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais lire pour vous, les 50 nuances de pluie, la Bretagne, hein. Donc ça va la saucée, le grain, la bruine, l'averse, la douche, le crachin, la glave et le grésil. Voilà. C'est fait d'ailleurs par Geronimo Lagadec, au cas où vous auriez des doutes sur l'origine bretonne du fabricant de ce mug. Il nous a également envoyé des super stickers, dont ce sticker qui aura toujours sa place dans le décor. Je vais le montrer là-haut. Hop. Parce que au moins, je sais que là-haut, ça va me faire un autofocus. Ah non! Ah, Sony. Allez, go Sony. Hein, pour l'emoji Bretagne. On est tous derrière vous, les Bretons. Un grand merci à toi, en tout cas, Brezand, pour ton envoi. C'est super cool, ça fait plaisir. Si vous avez envie de nous envoyer des mugs sur le Discord, vous contactez quelqu'un, Timothès ou tout le monde sauf moi. Moi, je n'aurai pas le temps de traiter pour qu'il vous donne une adresse d'envoi. Je précise aussi, parce qu'on a des gros problèmes avec la poste et Colissimo, que par contre, il vaut mieux envoyer par, on va dire, des livreurs professionnels, parce que sinon, ça n'arrive pas. Voilà, c'est renvoyé chez vous. Moi, je ne suis même pas au courant que ça m'a été envoyé. Super. Un article avait une fois remarqué que n'importe quelle manifestation en France avait toujours un... Les Bretons sont toujours là. Les Bretons sont toujours là et c'est ça qu'on aime. Hein? Sans la Bretagne, la France ne serait pas la France. Ça va pas plaire à tous les Bretons. Mais bon, allez, je vais pas me faire des ennemis ce matin. De quoi on va parler? On a plein de sujets, des sujets passionnants. En plus, j'ai deux de mes marques préférées dont on va parler aujourd'hui. On va commencer justement en parlant de Shadow. On va revenir. Hier, ils étaient sur Twitch. Ils ont fait des annonces sur un petit peu l'avenir immédiat de Shadow. Je sais que certains d'entre vous ont des Shadow PC, d'autres s'y intéressent, d'autres les détestent. On va parler un petit peu de ça. Marion en avait déjà parlé effectivement il y a 2 jours, mais on a des news. On parlera également de Huawei qui pourrait remplacer Android par Harmony OS sur 300 millions d'appareils dès le mois d'avril. On va parler aussi de la pénurie de composants qui risque de limiter la croissance de marché des PC en 2021. On parlera également de Xiaomi qui a annoncé plusieurs Redmi, mais notamment le Redmi Note 10 Pro qui est officialisé avec écran AMOLED 120 Hz, capteur 108 mégapixels. C'est déjà le roi, nous dit Frandroid. On reviendra aussi sur mon dada en ce moment, Valheim qui dépasse les 5 millions de ventes. Est-ce qu'on a affaire à un phénomène culturel dans le monde du gaming? On en parlera un petit peu. Moi, je vous donnerai ma petite analyse du phénomène Valheim. On fera une petite pause pour parler de notre sponsor ExpressVPN et notamment de l'offre 3 mois gratuit que vous avez sur la chaîne avec notre lien. Hein, notre lien affilié. Et on se fera une petite cerise sur le gâteau, puisque c'est assez excellent. Peak Design, une marque que vous connaissez peut-être. Hein, moi, je la connais bien. Mes sacs préférés en photo. Ils se sont fait copier par Amazon Basic. Et du coup, bah, on verra un petit peu comment ils ont réagi. Ils ont réagi par rapport à ça avec beaucoup d'humour. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. J'ai dit la cerise sur le gâteau. Je n'arrête pas de me tromper. C'est la cerise sur le croissant, bien sûr. Heureusement que vous connaissez mieux l'émission que moi. Sinon, on s'en sortirait pas. Vous êtes les gardiens du phare. Vous êtes les pères Fouras. Les pères Fouras du mug. Ça vous fait plaisir, j'espère. Voilà, voilà. Cerise croissant, merci. Cyril Boucher, on en fera peut-être un t-shirt. La cerise sur El Gâteau, c'est pas mal aussi ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour à tous en tout cas, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite, on va parler effectivement de Shadows. Et hier, il y a eu un Shadow News à 18h, donc un live sur Twitch de l'équipe Shadow, où on découvrait d'ailleurs Stéphane Elio, je crois, qui est un des quatre cofondateurs de Shadow, parce que... Oui, on connaissait surtout... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est un des cofondateurs, effectivement, de Shadow, qu'on connaissait moins, parce que c'est un peu le financier Emmanuel, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais Fred dans la tête, mais c'est parce que l'article est de Fred Zone. Emmanuel, bien évidemment, on le connaissait, c'était un petit peu la figure... De Shadow, mais il y a quatre cofondateurs de Shadow, dont un qui veut rester anonyme d'ailleurs. Et Stéphane Elio, moi je l'ai rencontré qu'une ou deux fois, c'était un peu le financier du groupe. Donc il est venu justement pour parler un petit peu de la situation de Shadow. Je ne vais pas vous refaire la news que Marion vous avait faite. Le service français de cloud gaming est en difficulté financière. Ils sont dans une procédure de redressement judiciaire. En gros, le redressement judiciaire, c'est une procédure, c'est pas la faillite, hein, c'est une procédure qui va vous protéger de vos créanciers. Mais la promesse, en contrepartie, c'est trouver un repreneur. Et c'est pas exactement comme faire une levée de fonds quand tout va bien. Il faut trouver un repreneur vite. Voilà. Donc, il a parlé un petit peu de cette recherche de repreneur, que il y avait déjà des acteurs qui étaient prêts pour la reprise de Shadow, que pour l'instant, et en tout cas sur un laps de temps, on va dire moyen, il n'y a pas de remise en cause pour ceux qui ont déjà un Shadow. Ça, c'est quand même l'info principale et l'angoisse, je pense, de ceux qui ont un Shadow et qui aiment bien leur Shadow. C'est que votre Shadow va pas être coupé demain. Ça, c'est déjà très important. Effectivement, c'est la gelée des dettes, hein, le redressement judiciaire. Il peut pas nous dire aujourd'hui quels sont les repreneurs. Ça a l'air d'aller vers de l'opérateur franco-européen. On peut pas en dire plus. C'est vrai que ça pourrait être pas complètement déconnant qu'un opérateur reprenne Shadow, l'inclut dans ses services. Ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans ce qu'il a dit, c'est une forme de transparence sur les erreurs. Oui, Shadow a fait des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a déjà analysées, hein, dans nos différentes émissions. Moi, depuis 2015, je suis passionné par l'Odyssée Shadow. Je trouve que c'est une très belle aventure. Très belle aventure chaotique, mais une très belle aventure. Il y a beaucoup de choses, effectivement, et ils reconnaissent maintenant complètement le problème qu'ils n'arrivent plus à livrer des Shadows, qu'il y a eu des vrais problèmes de coûts avec beaucoup de conjonctures qui ont pas été, qui sont pas allées dans leur sens. Le fait qu'ils aient baissé drastiquement leur prix brutalement aurait pu être une très bonne idée à l'époque, hein. C'est toujours facile quand une société se trouve dans une situation d'échec, de dire « Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont fait ça, voilà l'erreur. » Analyser les erreurs après, c'est toujours un peu facile. C'est vrai que d'avoir baissé le coût du service alors que monter des Shadows coûte extrêmement cher, et en plus la montée des prix des composants à cause de... On en reparlera justement tout à l'heure, n'a vraiment pas arrangé les choses, pose des gros problèmes économiques. Aujourd'hui, après, c'est normal pour une société comme ça de ne pas être rentable tout de suite. Mais le problème, c'est que c'est bien pire que pas rentable. Ça leur coûte plus cher d'ouvrir des shadows que ce que les abonnements leur rapportent. L'amortissement est beaucoup trop long et c'est pas viable, en gros. Alors, est-ce qu'au final, ça va être une augmentation des prix pour Shadow? On ne sait pas. Eux, leur pari avec ces prix bas des Shadow, c'était d'arriver à une masse critique, d'avoir énormément d'abonnés. Et là, on devient bénéficiaire, on devient rentable. Ça va être plus compliqué que ça. D'une manière générale, il a parlé de manque de rigueur, d'erreurs, de dépenses qui ont été faites, qui auraient peut-être dû être faites. Notamment, par exemple, dans le stockage, ils ont dépensé beaucoup d'argent à tester différents trucs de stockage, avec aussi cette politique d'annoncer les choses avant qu'elles soient mises en place. Un peu le « move fast and break things », qui a ses limites. Comme ils expliquaient assez bien, Shadow n'est pas un réseau social ou un truc comme ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis quand même, c'est le PC des gens. C'est le PC gamer des gens. Donc, c'est pas un business model de start-up avec juste une application et des services. Donc, voilà. Alors après... Bien évidemment, dans le chat, dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont des solutions économiques miracles qui arrivent après la bataille. Moi, je dirais tout ce qu'on peut souhaiter à Shadow, c'est de s'en sortir. Moi, je trouve que c'est un produit fantastique. Et vraiment, aujourd'hui, c'est le paradoxe. Shadow n'a jamais été aussi bon en termes de produits qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même un réel boulot qui a été fait. Comme il le disait, ils ont maintenant un peu craqué le code de comment faire ça économiquement, en faisant des économies, en achetant mieux les serveurs, en hébergeant mieux, etc. Le produit a ses chances par rapport à la grosse concurrence, parce que tout le monde dit « ouais, Stadia va écraser Shadow », pas trop le cas. Le cloud gaming, c'est que pour les GAFAM, il n'y a pas de place pour une start-up française, ça réussira jamais dans le monde. Moi, je pense que le produit garde ses spécificités. Certes, ils ont perdu une certaine avance technologique. D'autres font des PC sur le cloud, hein, ou des PC gaming sur le cloud. Mais Shadow garde de sérieux atouts. Ils ont d'abord une expérience accumulée, une expérience de conneries aussi accumulée. Hein, c'est comme ça qu'on apprend. Ils ont un produit qui rentre par le cloud gaming, mais qui est un vrai PC. Donc, on peut faire tout un tas de choses. Donc, finalement, ouvrir le business aux petites entreprises, avoir une offre B2B pour des shadows qui n'auraient pas la dernière carte graphique. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Peut-être un retour d'une certaine modestie aussi. Travailler bien ces marchés. L'expansion internationale, elle est obligatoire. Shadow ne peut pas rester une boîte française et se limiter au territoire français. Mais voilà, y aller par paliers. Moi, pour l'instant, de toutes les offres de cloud gaming, c'est quand même Shadow qui me convient le mieux. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une clientèle. Elle est peut-être pas aussi grosse qu'il le voudrait. Il faut la travailler. Quel prix elle est prête à mettre dans un Shadow? Qu'est-ce qu'elle attend vraiment d'un Shadow? Moi, je pense également qu'ils se sont trop battus à essayer de convaincre des gamers qui sont surtout obsédés par des FPS compétitifs, alors que le jeu vidéo, et on parlera de Valheim tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir un léger lag invisible dans Valheim? C'est pas un jeu compétitif. Et moi, c'est plutôt ce type de jeu que je joue que de jouer à des FPS compétitifs. Donc, je pense qu'en communication, il y a peut-être un braquet à mettre sur embrasser le fait que c'est un bon produit pour les casual gamers. Voilà. Et l'assumer complètement. Et pas être obsédé par « on va remplacer complètement votre PC de gamer ». Voilà, je pense qu'il y a plein de choses encore à faire. Je regarde un peu vos réactions. Honnêtement, le gros problème de Shadow, c'est son manque de nomadisme. C'est encore très dépendant de la connexion. Ah oui, alors ça, de toute façon, c'est le problème intrinsèque de ce produit et qu'on ne peut pas résoudre. Shadow n'est une expérience satisfaisante que si les connexions suivent. Or, on sait que pour certains d'entre vous, même en prenant des connexions fibres et tout, Bah, le fait est, c'est que Shadow n'est pas une bonne expérience. Moi, qui ai vraiment une expérience au niveau du réseau avec Shadow qui est impeccable, c'est une très bonne expérience pour moi, quoi. Un casual gamer a-t-il besoin de cloud computer? Oui, parce que tu vois, moi, et beaucoup de gens partagent ça. Moi, j'adore jouer à des jeux vidéo, mais j'ai pas envie d'avoir un PC physique qui fait de la lumière et du bruit dans mon bureau. Et j'ai envie de pouvoir me faire une petite session de Valheim discrètement planquée au bureau sur mon Mac en faisant croire que je suis en train de travailler. Non mais voilà, le fait même de pouvoir lancer mon PC de gamer sur un Mac, moi c'est énorme de pouvoir jouer sur mon iPad. L'appli est revenue hein, d'ailleurs sur l'App Store, je vous le précise, c'était une erreur manifestement d'Apple qui l'avait enlevé. Moi, c'est un produit, et encore une fois, c'est moi, c'est un produit qui me correspond extrêmement bien à mon usage du jeu vidéo aujourd'hui. J'ai passé un entretien avec les deux fondateurs... ça va trop vite, la chatroom. J'ai passé un entretien avec les deux cofondateurs il y a 2 ans pour construire l'équipe RH. Je te rejoins, Jérôme, le produit est top, mais l'entretien était lunaire et clairement, ça n'a rien de sérieux. Disons que, pour avoir beaucoup parlé avec Emmanuel, et on ne va pas lui jeter la pierre, je pense qu'Emmanuel est quelqu'un qui a une forme de génie, j'ose le dire, qui a un côté professeur tournesol, qui est extrêmement attachant et qui est certainement très visionnaire. C'est quelqu'un qui, même dans le management des équipes, a voulu faire du nouveau. Il y avait un côté extrêmement chaotique. Moi, les fois où je suis allé chez Shadow, parfois, je ressortais un peu étourdi en me disant « Mais comment ils travaillent, en fait ?» C'est « Waouh !» Mais ils ont des idées géniales, mais « Waouh !» C'est « Waouh !» Et très anti-process, organisation, ce qui peut être intéressant. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, Shadow a besoin de rigueur. Shadow a besoin, et la principale déception des gens, et pourquoi il y a des gens qui sont presque... Moi, je le vois dans les réactions, les gens sont très agressifs envers Shadow, ils se sentent trompés. Et pourtant, comme je l'ai dit sur Twitter hier, les gens vous sentez trompés, mais vous payez pas. Certes, vous attendez depuis 9 mois votre Shadow, c'est énervant, mais ils ont pas facturé 9 mois un produit... Donc oui, ils vous ont menti en disant qu'il allait être disponible et il n'est pas disponible, donc ça engendre une frustration, mais ils vous ont pas volé de l'argent en vous disant vous avez le service sans vous le donner, en vous prenant votre argent. Et pourtant on a l'impression que les réactions vont presque dans ce sens là mais je pense que voilà, c'est un des principaux problèmes de Shadow. Ils nous donnent beaucoup d'espoir, ils nous ont beaucoup fait rêver, et puis il y a beaucoup de déceptions du coup qui s'accumulent. Aujourd'hui, Shadow a besoin de rigueur. Quand le double écran sera là, eh ben, ils diront le double écran est là et il arrive. Qu'on arrête même de nous annoncer les bêtas, les alphas, parce que ça fait 2 ans qu'il est en alpha, le double écran. Que quand les services seront disponibles, ben, on pourra s'abonner. Voilà, donc il y a de la rigueur, il y a de l'organisation à faire chez Shadow, quoi. Pour les commandes, elles ne sont pas accélérées. Tout ça va attendre le repreneur. Ils communiqueront sur les commandes actuelles. N'annulez pas vos commandes. De toute façon, ils ne vous facturent pas. Je pense qu'il y aura tout un nouveau calendrier de quand vont arriver les différentes offres Shadow, quand elles seront vraiment disponibles. Rien ne se fera tant qu'ils n'auront pas un repreneur. Il y a toujours, on ne va pas se le cacher, parce que moi, je n'appartiens absolument pas à l'équipe Shadow, et en plus, ce n'est plus du tout nos sponsors, mais il y a quand même un risque que ça se casse la gueule. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Un redressement judiciaire, s'il n'y a pas de repreneur, c'est fini. C'est fini. Donc ça, il ne faut pas se le cacher non plus. Hein. Donc, arrêtez de faire un refresh tous les jours sur quand votre Shadow sera disponible. Attendons un peu. Il faut un peu de patience. Ça peut être une bonne nouvelle parce que c'est bien évident qu'un repreneur va demander beaucoup plus de discipline à Shadow. On verra ce qu'il en est. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui souhaitent ce service pour démarrer un business. Et c'est embêtant. Pour un développeur, est-ce que tu penses que cela est bien selon toi? Moi, je dirais aujourd'hui, un Shadow, donc un PC sur le cloud, est une bonne idée. N'oubliez pas de faire un backup de vos documents quand même. Je pense que c'est quand même un PC plus fait pour le jeu. S'il développe une offre PME, entreprise, business, pro, il faudra quelques assurances de plus. Il faut retravailler un tout petit peu le produit pour en faire un excellent produit bureautique pro. C'est une alternative à GeForce, ça fonctionne pas exactement comme GeForce. Comprenez bien, pour ceux qui n'ont jamais eu un Shadow, c'est qu'un Shadow, c'est avant tout un vrai PC. Un vrai PC sous Windows. Donc si vous prenez un Shadow juste pour faire du Word, ça marchera. Vous n'allez pas faire du Word avec l'offre GeForce. Le montage vidéo, on me pose souvent la question. Oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir que tu envoies tes fichiers sur ton Shadow pour les monter et les rapatrier. Donc ça fait un peu une étape en plus. N'oubliez pas que c'est vraiment un PC à distance. C'est une VM, hein. C'est pas nouveau Shadow. Ce qui est nouveau, c'est le packaging qu'ils en ont fait et le fait d'avoir fait une VM à... Je sais plus combien ça vaut une VM aujourd'hui, mais les VM, ça existe déjà. Mais généralement, c'est plus, je crois, dans les 50, 100 euros par mois pour les entreprises, une VM. Est-ce que je pense que le Shadow est le futur du PC? Je pense que c'est un des futurs du PC. Ça remplacera pas tous les PC physiques et c'est pas le but non plus. Et les VM, c'est souvent à l'heure, oui, la facturation. Tout à fait. Voilà, allez, on continue parce que je ne veux pas faire toutes les missions sur Shadow, mais vous savez que Shadow, c'est un projet de cœur pour moi. Et ce n'est pas parce que ce n'est plus notre sponsor qu'on ne les aime pas. On les aime encore plus quand c'est notre sponsor. Non, mais bien évidemment, pendant très longtemps, je n'ai jamais été sponsorisé par Shadow. Et c'est un produit que j'ai découvert en 2015. Ils nous ont sponsorisé que pendant, je crois, un an et demi. En 2020, un peu 2019, mais j'en parle depuis 2015 et c'est un projet de cœur pour moi. C'est un projet extrêmement attachant, qui a fait des erreurs, mais ça les rend attachants aussi. Voilà. La pénurie de composants suite au Covid n'a pas les... Non, ça les a pas aidés. On va en reparler. Je continue dans les articles. On va parler de Huawei qui pourrait remplacer Android par Harmony OS sur 300 millions d'appareils dès le mois d'avril. La presse chinoise a annoncé que Huawei s'apprêtait à installer son système d'exploitation Harmony OS sur 300 millions d'appareils, dont la quasi-totalité de ses smartphones, 200 millions, et qu'il devrait commencer dès le mois d'avril. Et la bêta, elle est où alors? Qu'est-ce que c'est que Harmony OS? Comment ils vont faire? Ils sont forts, ces Chinois. Ouais, ils peuvent se planter aussi. Ils voudraient, dès le mois d'avril prochain, sur 90% des appareils actuellement en circulation, installer Harmony OS. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Mais Huawei devrait communiquer là-dessus dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Harmony OS... Ils ont cravaché. Parce que un OS de mobile, c'est pas un truc que tu fais sur WordPress avec deux lignes de code. Hein. C'est du lourd. Ils avaient pas la technologie. Il fallait tout apprendre. Donc comment ils y sont arrivés? Ce que commence à dire, par exemple, Art Technica, c'est qu'ils ont littéralement cloné Android. Ils ont développé un système d'exploitation très similaire à Android 10. En fait, ce que dit même dans d'autres termes Art Technica, c'est qu'Harmony OS serait une surcouche en fait d'Android. Donc, ils ont vraiment beaucoup copié Android. Est-ce que ça posera des problèmes de brevets de tout ça? On n'en est pas encore là. Mais du coup, ça pourrait expliquer comment ils le déploieront très vite, quoi. Donc, à voir, à suivre. Intéressant. Va-t-on voir les premiers tests d'Harmony OS rapidement? Et du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que Harmony OS sera vraiment Android sans Google, d'une certaine façon? Mais du coup, certains qui rêvaient d'un OS alternatif et très différent vont peut-être être un peu déçus. Tiens, Technique Savoir, je te prends au vol. Sache que parfois, quand tu mets un point après un mot, ça peut être considéré comme un lien. Ça, c'est le défaut. On le voit, ça trouve en tout cas pas d'étoiles. Bon, bref. Bonjour, je suis un expatrié aux États-Unis. J'en ai marre des normes anti-pollution de merde. Ok. Merci, Whitman, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Ça ne sera pas sans le parrainage du gouvernement chinois. Ça va être toute la question. Est-ce qu'on va se dire, ouais, c'est génial, on va avoir Android sans Google, on ne va pas être espionné? Pas sûr. Pour ceux qui écoutent en audio, là, je me suis gratté la tête avec un air circonspect. Oui, certes, vous ne serez peut-être pas espionné et collecte de données par Google. Mais qui sera à l'autre bout du fil? Je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il est temps que tout le monde fasse un front commun face à la Chine. Gardez les chakras ouverts. Mais ça ne veut pas dire ne pas être vigilant. Allez, on continue dans les news. On va parler justement de la pénurie de composants. On en parlait un petit peu avec Shadow. C'est clair que ça a été un gros caillou sur une route déjà chaotique. Qu'est-ce qu'on aime les cailloux hein, chez Naotech et sur le bug. Pour ceux qui nous découvrent, hein, le gravier, le caillou, ça fait partie de notre mythologie. Bref, tout ça pour dire, la pénurie de composants risque de limiter la croissance sur le marché des PC en 2021. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que les composants chopent le coronavirus? Ben non, mais vous vous doutez bien que le coronavirus a impacté tous les circuits de distribution technologique cette année, depuis la fabrication, notamment des puces, jusqu'à la distribution, les transporteurs, etc. Et ça, c'est à mettre en conjoncture, donc, baisse de la productivité, voilà, c'est la baisse. Et en parallèle, vous avez une montée de la demande. Pourquoi montée de la demande? Eh ben, les gens sont chez eux en slip chaussettes, hein. Il faut télétravailler, on se fait chier, on a envie de jouer à Animal Crossing ou à Valheim. Eh ben, on en profite pour changer son PC. Il y a eu un vrai boom de la vente, effectivement, des outils informatiques. La demande n'a pas baissé, bien au contraire. Les confinements imposés par les gouvernements à travers le monde et le télétravail ont contribué à une expansion à la demande d'outils connectés professionnels ou de divertissement. Les PC, les consoles, les serveurs étant en première ligne. L'année 2020 et le début 2021 sont marqués par une offre qui n'arrive pas à rattraper le niveau de la demande. Un phénomène qu'on peut constater dernièrement avec les cartes graphiques et les processeurs. En plus, ajouter là-dessus que les gens ont le temps de spéculer sur les crypto-monnaies, et donc du coup les fermes vont acheter toutes les cartes graphiques du marché. Faut un PC pour jouer à Animal Crossing? Non, mais il faut une console. Et qu'est-ce qu'on met dans une console? Des puces, mon bon monsieur. C'est surtout à cause du télétravail, la pénurie des composants, mais aussi de la baisse de la productivité. Alors je refais le schéma, c'est un schéma technique, alors suivez bien, hein. Baisse de la production de composants, hein, c'est plus dur à produire, parce qu'il y a de la, enfin, les gens sont plus dans les usines, les livreurs ont du mal, hein, vous voyez, ça c'est une baisse. Montée de la demande, hein, et ben ça, on a un problème. Voilà, le problème il est là, il est au milieu, c'est moi le problème. Je représente une tension trop forte entre l'offre et la demande. Retour à nos manuels d'économie, hein, quand la demande est plus forte que l'offre, qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Putain, j'adore faire mon prof. Merci Cyril Boucher pour ton Prime. 9e mois d'abonnement. Il y a plein de gens que j'ai ratés. Merci aussi Olivier Créative. Merci Willy. Merci Guy Cosmos. Merci Le Bûcheron MTB. Merci Geek VR. Merci Sorcier 062. Merci Tollwood. Merci DevVoc. Merci à vous. Les prix qui augmentent. Donc, moi, par rapport à ça, je vous dis une chose, et ça, c'est un conseil d'achat très sérieux, hein, de Pierre Belmar au Canard, si vous connaissez le shop Nowtech, n'achetez pas votre PC cette année. Voilà, n'achetez pas votre PC cette année. Ça se traduit forcément dans les prix. C'est pas une... Non, je t'ai pas raté, Vaya, je t'ai pas raté, je t'ai cité. Donc, prenez un Shadow. Laissez-les tranquilles, laissez-les respirer, la Shadow. Hein, il faut qu'ils se... Il faut, voilà. Et puis, ils vont revenir vous voir en vous disant quand est-ce que vous pourrez acheter des Shadows. Mais moi, je conseille pas d'acheter des PC. Voilà. Le prix des composants est cher. N'achetez pas des PC. Voilà. Il y a, alors, du PC d'occasion, des stocks anciens, oui, mais là, même, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que les puces graphiques ou les processeurs, hein, qui sont, où il y en a pas assez. C'est même les petites puces à quelques centimes dont on a besoin. Ils le disent d'ailleurs, les composants qui font le plus défaut, je l'avais dans le, dans l'article, voilà, les modules Wi-Fi, les capteurs d'image, les puces qui servent à l'audio dans les PC, il y a des problèmes, quoi. Achetez un vélo, voilà. Faites du vélo, en attendant. C'est l'automobile qui est dans la merde aussi. Oui, alors ils le disent dans l'article, je ne l'ai pas spécifié, mais tu as tout à fait raison. Le marché automobile a besoin aussi d'énormément de puces. Donc, ils piquent les puces des PC. Donc, si vous êtes frustré et que vous ne pouvez pas acheter votre PC, c'est la faute des voitures. Voilà. Et on ne parle pas du minage. J'en ai parlé. Oui, le minage pour créer les composants. Achetez une voiture et jouez avec les puces de votre voiture. Voilà. Oui, mais l'automobile, de toute façon, je vais pas vous refaire les news de 20h. Bien évidemment que le coronavirus bouleverse toutes les économies du monde entier. Et ça marche mal. Le monde marche à mi-vitesse. Mais la demande de voitures n'a pas augmenté pendant le confinement. Non, mais je pense que la demande de puces pour construire des automobiles a augmenté. À voir. Après, j'ai pas les chiffres. Est-ce que les gens ont acheté plus de voitures parce qu'ils avaient plus de temps pour changer leur voiture? Peut-être. L'aéronautique aussi. Tout le monde manque de puces. Même les vibromasseurs intelligents n'ont plus de puces. C'est une catastrophe. Ça va mal se terminer, cette émission. Si je continue, et d'ailleurs j'enchaîne, je vais vous parler de Xiaomi et du Redmi Note 10 Pro qui a été officialisé hier. Un écran AMOLED 120 Hz, un capteur 108 mégapixels, c'est déjà un roi, nous dit Frandroid. Effectivement, alors déjà, en fait, le plus important, c'est un roi du milieu de gamme. Milieu de gamme avec des prix extrêmement compétitifs comme le savent le faire Xiaomi, puisque le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dans sa version 64Go est annoncé à $279, 128Go à $299 et 8Go de RAM 128Go vaudra $329. Donc c'est des prix extrêmement compétitifs pour des composants qui ont l'air extrêmement alléchants, puisqu'on a un écran de 120 Hz, du Gorilla Glass 5, un dos en plastique, un quadruple module photo vertical en haut à gauche. Les quatre modules photo, on a un capteur de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 118 degrés, putain, mais donnez-moi les longueurs focales. Je sais pas ce que ça fait, 118 degrés. Bref. Un capteur avec objectif macro. Ouais. Je fais... Les objectifs macro, bon, à moins que vous fassiez beaucoup de macro, hein, parce que le ton, c'est bon, mais le macro, c'est beau. Ouais. J'ai jamais été vraiment... Et là, c'est pas une critique envers Xiaomi. Mais chaque fois que j'ai eu des tests de smartphone avec des objectifs macro, ça m'a jamais vraiment convaincu. Ah, quand même, ouais, là, il y a des gens qui se disent « Oh, mais putain, mais c'est qui ce mec? C'est quoi ces jeux de mots à la con ?» Non, non, Peak Design, c'est pour la fin. Pas d'angoisse, Alexine. Voilà. Un Snapdragon 732G, cool. Hein, cool, cool, cool. Une batterie de 5200 mAh avec un bloc de 33 watts, donc recharge rapide. Pour ce prix-là, c'est pas mal du tout sur la fiche de spec. Je ne l'ai pas eu en main, j'ai pas été invité aux annonces, je ne peux pas vous en dire plus, ça serait malhonnête de ma part de vous donner un avis. Je trouve que Xiaomi fait très bien une chose, c'est aligner des specs incroyables pour des très bons prix. J'ai jamais vraiment testé de Xiaomi. Les échos que j'en ai, mais vous pouvez les démentir dans la chatroom, c'est qu'effectivement, c'est un bon rapport qualité-prix à l'achat. Le SAV derrière, mais c'est normal, on paye pas un SAV à ce prix-là. On ne paye pas non plus forcément des mises à jour pendant 4 ans avec ce type de prix. Ce que je veux juste dire, et c'est absolument pas une critique envers Xiaomi, mais comprenez bien ce que vous achetez. Les gens qui me disent oh, « Tu te rends compte, le Xiaomi il a 108 mégapixels et à côté, on a Samsung ». Qui sort un S21 qui a 108 mégapixels et il y a quasiment 1 000 € de différence, vous n'avez pas compris ce que vous achetez en fait. Et vous êtes dans l'erreur consumériste d'acheter le plus bas prix possible sans penser au vieillissement de votre produit, à la revente, à l'argus de votre produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter du Xiaomi, mais comprenez bien que vous n'achetez pas la même chose. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Ma femme a toujours son Xiaomi Note 5 depuis le jour de sa sortie, il fonctionne toujours. Voilà, bah, JPG au kilomètre, donc très bien. L'indice de réparabilité est arrivé sur l'Apple Store. Oui, on a déjà traité ça, cette info. Alors oui, il y a aussi une version 5G, parce que de base, il n'est pas 5G. Hein. J'ai oublié de le dire. J'aimerais connaître la marge de Xiaomi. Bah, vous le savez, les fabricants chinois qui sont... Oh, c'est... Faut que je vous montre un truc, pardon, excusez-moi. Regardez ce que je vois en pub chez Frandroid. Regardez à droite, la dernière vidéo, la caméra de son smartphone. Regardez qui est sur la vignette. Mais c'est qui ? mais Jérôme va-t-il faire des émissions chez Frandroid? C'est de la pub ciblée, Jérôme, t'excites pas. mais c'est intéressant, mais on va aller voir cette vidéo aujourd'hui. Instant auto-promo. Ouais, effectivement, j'ai tourné, je savais pas qu'il le sortait aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo. Sur les caméras de smartphone pour Frandroid. J'ai répondu à pas mal de questions que les gens avaient posées sur Instagram sur la photo sur smartphone. Donc manifestement, c'est disponible chez Frandroid. Elle est sortie hier. Et vous ne l'avez même pas, vous l'avez même pas mis en trending France. Mais qu'est-ce que vous foutez là, la communauté? Je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu la vidéo. Non, mais sérieux, faites trender un peu le truc, là. Mais en fait, je sais, le problème, c'est qu'on a une communauté qui aime bien rester entre elles. Donc, vous faites exprès de jamais retweeter nos vidéos, de jamais dire qu'il y a le mug, vous en parlez à personne. Comme ça, vous êtes sûr qu'on reste bien entre nous. Merci. c'est vous qui l'avez monté. Ah non, non, oula, je me suis cul sur un tabouret chez Frandroid. Il y avait Brandon, d'ailleurs, que je salue au passage. Il se démerde. D'ailleurs, je crois que le tournage a duré genre 2 heures. Je sais pas combien dure la vidéo finale, mais désolé pour le montage, vous avez dû souffrir. C'est comme ton caméo sur la vidéo top des smartphones de Frandroid. Tout à fait. Non, mais je vous charrie. Je sais que vous parlez beaucoup de nous. Je sais que vous avez compris que plus vous parlez de nous, plus vous aidez la chaîne. Et t'as pas dit les infos entraînent, c'est de la merde. Sauf quand ça parle de moi, Technique Savoir. Hein, c'est les trending topics, c'est de la merde. Sauf quand ça parle de moi. C'est ma définition. Allez, on continue dans les news, mais bon, voilà. Le Redmi Note 10, c'est un beau produit en fiche de spec. Attendons les tests de mes confrères. Moi, je ne le testerai pas, on ne me l'a pas envoyé. On va parler un tout petit peu de Valheim pour terminer les articles du jour. Un putain de phénomène. Un jeu indé qui paye pas de mine, qu'on n'a pas vraiment vu venir, qui est en early access, c'est-à-dire c'est pas le jeu fini. Jeu indé qui vaut 20 euros, hein. C'est pas un... ça sort pas d'un gros studio. Eh ben, ils en sont à 5 millions de ventes pour un jeu en accès anticipé. 5 millions de ventes. C'est quand même un sacré score. Et chapeau à l'équipe de Valheim. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et est-ce que Valheim va devenir un phénomène micro-ludique? Moi, je pense que oui. Attendez, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble Valheim. Sinon, allez voir nos derniers... est-ce que j'ai une vidéo où ça parle un petit peu de Valheim qui pourrait être intéressant et que je pourrais afficher en fond sans avoir de problème. Bah tiens, un de mes streamers préférés anglophiles, Esso, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble Valheim pendant que j'en parle. Là, il montre d'ailleurs comment on affronte un des gros boss. Alors, Valheim, c'est quoi? C'est un mélange... Oula, la qualité du streaming n'est pas top. Je suis en quoi? Qualité? Je vais monter la qualité en 1080. Voilà. C'est un jeu qui mélange du Minecraft, de la survie, tout ça dans un univers viking onirique. Voilà. Qu'est-ce qui est la raison de son succès, à mon avis? Tiens, on va éviter son sponsor. Ah, il a un rasoir en sponsor, c'est intéressant. Allez, on revient sur le jeu. Pour moi, les raisons du succès, moi, je suis complètement accro. C'est un jeu, je vais pas partir dans les critiques jeux vidéo, je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo, il y a d'autres jeux de survie, il y a d'autres jeux type Minecraft, mais moi je vais vous dire à mon avis ce qui fait que le jeu est aussi bon et aussi addictif. D'abord, il est modeste, il pète pas plus haut que son cul, et dans un monde où on a vu des flops de jeux qui étaient annoncés comme des trucs énormes et qui n'étaient pas finis, c'est un jeu où il y a beaucoup de soin qui a été apporté aux détails, qui ne se veut pas être ce qu'il n'est pas. Graphiquement, les personnages sont pas top. Les textures, c'est un peu mieux que du Minecraft, mais pas top. Par contre, il y a un très grand soin qui est apporté au rendu de l'environnement, comme vous le voyez sur ces scènes-là. La météo est extrêmement bien rendue, la physique est très bien rendue. Quand vous coupez un arbre et que le tronc vous tombe sur la gueule, ça vous fait très mal. Et ça peut engendrer des situations extrêmement drôles. On peut même tuer des monstres en coupant du bois d'une certaine façon et en faisant dégringoler des troncs de bois, on peut même construire des pièges pour envoyer sur un boss des tonnes de troncs d'arbres. La gestion de la physique est bien faite. Quand vous construisez une maison, il faut penser à l'évacuation de la fumée de votre feu. Sinon, vous étouffez dans la fumée de votre feu. La partie building, elle est extrêmement bien faite. Il va falloir que vous construisiez des bases, des maisons. Donc, les gens qui kiffent construire des très belles maisons, le système de build est vachement bien fait. La carte est immense. Il y a beaucoup de choses à explorer. On peut prendre son pied en jouant solo. On peut prendre son pied avec ses amis. On invite ses amis sur son serveur pour, par exemple, aller affronter un grand serpent de mer, comme vous le voyez. Comme on peut aller se faire une demi-heure de farming de lingots de cuivre en solo quand on a 5 minutes. Il y a plein de manières différentes de jouer. Et c'est surtout là où je veux en venir. La mort est punitive. Elle est suffisamment punitive pour créer un vrai stress et un vrai enjeu. On n'a pas envie de mourir, parce qu'en gros, quand vous mourrez dans le jeu, il faut aller rechercher son corps, sinon on perd son matériel. Et en plus, on a des petites pénalités sur ses skills. Donc, la mort est suffisamment punitive. Il y a même des mecs qui ont maintenant monté des groupes de vikings balèzes pour, si par exemple, vous êtes mort dans un endroit extrêmement difficile, ils envoient une équipe de survie, vous pouvez les appeler, c'est gratuit, vous allez sur leur Discord, vous demandez est-ce qu'on peut organiser une opération de sauvetage, car je suis mort à tel endroit avec des mobs qui sont beaucoup trop puissants pour moi, et eux ils arrivent, des gros vikings super bien stuff, et ils vont vous aider en tuant tous les mobs autour de votre corps à récupérer votre corps. C'est génial, rien que ça, ça montre bien qu'on est en train, ils sont en train de créer un phénomène. Oui, c'est un peu comme Minecraft, hein, la mort. Ils ont rien inventé, hein, et ils disent pas qu'ils ont inventé quoi que ce soit. C'est juste que la recette est très bonne. Et surtout, et c'est là où je veux en venir, en fait, tout joueur de Valheim peut vous raconter des histoires. Et pourtant, le jeu n'est pas du tout scripté. Le monde est généré aléatoirement, selon le serveur. Y a finalement très peu de scénarios. Globalement, vous êtes à un endroit, vous devez tuer des boss et survivre dans ce monde et grossir, prospérer. Mais les mécanismes sont bien huilés et bien intégrés, qui fait qu'on vit des histoires qu'on a envie de raconter. Moi, chaque fois que je rencontre ou que je discute avec un joueur de Valheim, on se raconte, putain, mais hier, j'étais en train de courir en slip dans la montagne parce que j'étais mort à tel endroit stupidement, parce que j'étais en train de miner un truc et j'ai un loup qui est venu me mordre le cul. On se crée des histoires, on se marre. Vous avez vu un petit peu nos streams, on a joué une fois avec Yanis. J'ai pas le temps pour l'instant, mais j'aimerais bien jouer avec les contributeurs, notamment ceux qui jouent à Valheim. On va essayer de s'organiser un petit peu autour de ça. Moi, je retrouve, je vous le dis, avec mon âme d'enfant, je me retrouve dans les plaisirs qu'on avait dans le club de détectives que j'avais monté, qu'on avait monté, hein, j'étais pas le chef, quand je sais pas, je devais avoir 10, 11 ans, qu'on construisait des cabanes. Moi, j'étais l'ingénieur artificier de mon club de détectives, donc j'achetais des pétards, en fait, et je les faisais... péter, voilà, c'était mon rôle dans la bande. Mais il y a ce côté, voilà, construire des cabanes, alors c'est un peu plus gros que des cabanes, découvrir un monde qui est hyper vaste, qui est généré aléatoirement selon le serveur que vous créez, donc il y a toujours à découvrir. Ça, c'est des choses qui existent dans Minecraft. Il y a quand même une ambiance viking qui fait que l'environnement, pour moi, est quand même beaucoup plus beau que ce qu'on a dans Minecraft, même si je reconnais une très grande esthétique à Minecraft. Il y a des enjeux qui sont un peu plus clairs que Minecraft, pour moi. Il achetait des pétards. J'avais 10-11 ans, ça va. Non, mais bien évidemment, Among Us, mais on en a parlé, c'est un phénomène aussi. Y a des microtransactions? Non, en tout cas, pas pour l'instant. C'est pas du tout prévu au programme. Est-ce que Twitch avait aussi un gros impact sur la popularité d'un jeu. Oui, alors, c'est effectivement un phénomène non négligeable. Je pense que Valheim s'adapte très bien aux streamers pour vivre des aventures et faire des collabs avec d'autres streamers. Et c'est d'ailleurs un peu la tendance sur Twitch. Valheim sur Mac, je crois pas. Je crois que pour l'instant, c'est que sur PC. Mais n'oubliez pas qu'ils sont en Early Access. Hein. Arrêtez de comparer à Minecraft, c'est pas pareil, et Minecraft, c'est mieux. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Minecraft, j'ai connu Minecraft à son début, et je doute pas que pour certaines personnes, c'est un des jeux différents, je suis complètement d'accord avec toi. Valheim a pioché dans Minecraft, dans des choses que les gens aiment bien dans Minecraft, mais c'est un jeu différent. Il y a tout ce côté survie, exploration, mais je sais qu'aujourd'hui, pour avoir essayé de reprendre Minecraft, moi, m'intéresse moins, alors que Valheim m'a chopé tout de suite, quoi. Les développeurs ont prévu quoi pour la suite? Bah, déjà, il faut qu'ils développent le jeu tel qu'il est. Le crafting est déjà assez complexe. Alors, effectivement, il n'y a pas tout l'engineering qu'on peut avoir aujourd'hui dans Minecraft, mais moi, je trouve que leur craft est très bien fait, parce que il faut quand même, bah, y a des efforts à faire pour obtenir certaines choses, mais c'est pas infranchissable. Voilà. Ils ont une feuille de route, hein, allez voir. Depuis quand on n'a plus le droit de comparer? Merci pour le regard critique. Non, non, mais oula, je voulais pas me mettre à dos la communauté Minecraft. Et Minecraft, c'est quand même un jeu. Ça a quoi comme maintenant? Ça a 20 ans, 30 ans? Non, 25 ans? 20 ans? C'est un jeu qui est toujours là. Minecraft, là, pour le coup, je suis pas en train de vous dire Minecraft n'est pas un phénomène culturel. Minecraft est un putain de gros phénomène culturel. Là, je suis en train de vous parler d'un jeu indé à 20 euros qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Among Us aussi, c'est la même chose. Et c'est intéressant dans le marché vidéoludique. Des gros développeurs avec des millions et des milliards de dollars n'arrivent pas parfois à faire ce que font. Et c'est plutôt réconfortant que des petites équipes avec des petits moyens, sans péter plus haut que leur cul, arrivent à développer des phénomènes vidéoludiques. Et c'est la preuve aussi avec la course à l'armement de les plus beaux graphismes, machin, que c'est pas le cœur d'un jeu. Le graphisme n'est pas le cœur d'un jeu. Le jeu est le cœur du jeu. Voilà. Oui, Minecraft était indé aussi au début. Ouais, Minecraft, ça a bientôt 20 ans, oui. Je me trompe pas. Si je puis me permettre de parler rapidement d'un jeu sur le coup vraiment inspiré de Minecraft, Vintage Story, qui est un Minecraft-like bien plus mature et complexe. D'accord, merci de l'info, Mecha. Alors, tiens, je vais faire un petit sondage. Parce que comme je suis en train de me dire il faut que je prépare un serveur pour les contributeurs, ça va me permettre de voir si on a des joueurs de Minecraft, de Valheim. Je joue à Valheim. Oui. Non. C'est fou, hein, comme les Vikings ont le vent en poupe. Ouais, je me marre. Je joue à Valheim. Oui, non. On va voir combien de personnes jouent à Valheim. Dans le chat, ils sont actuellement 22%, 20% de la chatroom joue à Valheim, 19% avec 13 joueurs, mais vous êtes quand même beaucoup à ne pas jouer à Valheim, donc il y a encore un gros vivier de développement. Hein. Je suis accro à Valheim par ta faute. Alors moi aussi, hein, c'est par là, je sais plus qui m'a recommandé Valheim, mais quelqu'un m'a dit, putain, essaye ce jeu, quoi. Par contre, j'en regarde pas mal sur Twitch. Ouais. C'est que Windows pour l'instant, on me le confirme. J'ai pas le temps de répondre, j'ai un port à construire. Ouais, toi aussi, t'as ce problème-là. Moi, j'ai perdu mon Viking l'autre soir à cause d'une nuit de tempête qui a explosé mon drakkar, mon petit drakkar contre les rochers. Donc, je suis allé voir effectivement un tuto pour apprendre à creuser, en fait, un port. Et il vaut mieux creuser ton port que d'essayer de le construire avec des piloris parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Quand je vous dis qu'on a tous un truc à raconter autour de Valheim, c'est qu'on est en train, voilà, donc pour protéger ces drakkar pendant les nuits de tempête, faut construire un port, etc. quoi. Bon, on a quand même 38 joueurs de Valheim actuels dans la chatroom, c'est pas mal, c'est pas mal. Creuse ton port. on sent la joie et la passion quand tu parles, Jérôme, c'est émouvant. Ouais, ben. Alors honnêtement, j'ai très peu joué parce que j'ai très peu de temps. Mais j'avoue que j'ai une petite obsession Valheim en ce moment. Dès que j'ai une demi-heure devant moi et que je peux allumer mon Shadow PC, je lance Valheim. Voilà. Des pilotis. J'ai dit pilotis. Non, putain, je suis un putain de dyslexique quand même. Pilotis, pardon. Pilori, c'est autre chose. Mon PC a crashé, je dois changer de PC avec l'environnement actuel. Je ne sais pas trop où me tourner comme un PC. Bon, bref, je prendrai ces questions à la fin. Voilà, c'est la fin des news et il était temps, on est un petit peu en retard. Avant de passer à la cerise sur le croissant, où on va parler de la merveilleuse histoire du Everyday Sling. J'ai dit sling, pas string. Restez, vous allez voir, c'est intéressant. Mais avant, nous devons parler de notre merveilleux sponsor qu'on remercie quand même beaucoup, ExpressVPN, d'être sponsor officiel du mug. Sachez que vous pouvez tester, parce que j'aurais beau vous l'expliquer en long et en large, ExpressVPN, et je peux prendre des questions. Ne me croyez pas sur parole. Testez-le. Testez-le, voyez si ça vous plaît. Le meilleur conseiller pour choisir un VPN, c'est vous-même, par un test. Et pour ça, grâce au mug Nowtech, vous allez obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. C'est une offre exclusive pour les auditeurs de Nowtech. Il faut bien que vous utilisiez le lien qu'on est en train de vous mettre dans la chatroom, mais que je vais dire par oral pour ceux qui nous écoutent en audio. C'est expressvpn.com/nowtechtv. Voilà, c'est simple. expressvpn.com/nowtechtv. Voilà, est-ce qu'il y a quelques questions sur le VPN? Le meilleur conseiller, c'est vous, Jérôme 2021, tout à fait. Mais pourquoi faire un VPN? Alors, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles tu peux avoir besoin d'un VPN. Celle qui est la plus connue, et pourquoi il y a autant de gens qui prennent des VPN en ce moment? On va pas se mentir, on va pas parler des cassettes de son beau-frère américain. Aujourd'hui, vous avez des abonnements et des services de streaming. Ils sont limités selon les pays. Avec un VPN, vu que ça planque votre adresse IP et qu'en gros, ça planque même dans le pays par lequel vous êtes en train de vous connecter à Internet, ça va vous permettre d'accéder à du contenu sans frontières et de profiter de l'Internet sans frontières. C'est un des apports des VPN. Voilà. Voilà, pour jouer par exemple à Lost Ark sur des serveurs russes, c'est une bonne idée. En gros, un VPN va vraiment dissimuler où vous êtes et qui vous êtes sur Internet. Alors, on va pas se mentir, ça vous dissimule pas, genre, je suis un hacker, je peux me balader où je veux, personne ne me voit. Hein. Mais pour les services, on va dire lambda d'Internet, ça dissimule qui vous êtes, où vous êtes. Moi, j'ai une question de mousse. Il a quoi de mieux que les autres? Une des raisons pour lesquelles nous, on a accepté le sponsoring d'ExpressVPN, c'est le respect de la vie privée. Ils ont notamment, moi, alors je suis pas technicien, mais ils ont un système de serveur qui est contrôlé par un organisme tiers et qui s'appelle Trusted Server. Et de ce qu'ils m'ont expliqué, En fait, rien n'est inscrit sur des disques durs sur leur serveur. C'est-à-dire que vos identifiants, ce que vous faites en fait avec vos VPN, rien n'est inscrit. Et ils sont très très soucieux, alors en tout cas dans les mots, encore une fois, faites-vous votre idée par vous-même. Allez lire ce qu'ils disent sur la vie privée. Ils ont des renseignements très complets sur ce qu'ils font par rapport à la vie privée. Nous, c'était quelque chose effectivement de très important pour, dans notre choix de s'associer à un sponsor VPN. Voilà. Pour répondre. Donc nous, on trouve que c'est une des choses qui les différencie des concurrents. Mais t'as pas à être désolé, Olius. T'as pas à être désolé. Est-ce que ça joue le rôle d'antivirus ? Pas du tout. Pas du tout. Allez vous renseigner. Hein. Moi, je trouve que leur site est très bien fait. Et je dis pas ça parce que c'est notre sponsor. Mais ils sont très didactiques sur l'intérêt d'avoir un VPN. Donc, allez découvrir. Allez les découvrir avec notre lien. Bien évidemment, en plus, ils sont satisfaits ou remboursés, hein, si vous apercevez que je n'en avais pas besoin. Nous, je le précise, l'offre, vous allez avoir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois avec le lien qu'on vous a donné. Voilà, voilà. Pas le temps de regarder Netflix, j'ai du bois à couper. On reconnaît le joueur de Valheim. On peut en parler en DM sur Discord si tu veux. Ah, il y a des discussions. Ah, vous parlez de certaines choses, d'accord. C'est intéressant. Réduire. Un VPN a tendance à réduire les débits. Oui. Moi, je trouve que les performances. Moi, je le teste, hein, bien évidemment, avec vous, ExpressVPN. Par rapport à d'autres que j'avais testés, bien évidemment, il y a un peu une détérioration de la qualité quand je regarde certains trucs en stream. Mais ça va. Ça va. En tout cas, sur mon iPad, ça va. Allez, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, on va parler d'une histoire qui est arrivé à une de mes marques préférées, en tout cas ma marque préférée de sacs, si vous n'étiez pas au courant, c'est bien évidemment les sacs Peak Design. Qu'est-ce qui est arrivé à Peak Design ? Eh bien, c'est très simple. Le Peak Design Sling, le Everyday Sling, qui est un des sacs de leur marque, Amazon s'est aperçu qu'ils se vendaient extrêmement bien sur Amazon. Et quand Amazon détecte un truc qui se vend extrêmement bien, vous avez les équipes de Amazon Basic, qui sont en fait des produits de la marque Amazon, qui font un produit un petit peu équivalent, moins cher, et qui les distribuent. Alors, avant d'être scandalisé, c'est une pratique courante dans la distribution. Regardez Carrefour, tous les distributeurs. Vous êtes un Michel et Augustin. Vous sortez une marque de petits gâteaux qui se vend très bien, et maintenant tout le monde le sait, en gros Carrefour va sortir un produit équivalent d'une marque Reflet de France ou un autre truc Carrefour, une de leurs marques, ce qu'on appelle les marques blanches, très rapidement derrière. ils font des copies chinoises avant les Chinois, ouais, c'est un petit peu ça. Disons qu'Amazon Basic repère les produits. Et c'est ça d'ailleurs ce que reprochent certains à Amazon, c'est qu'Amazon a une telle base de données pour le développement de ses produits en interne, en voyant immédiatement qu'est-ce qui se vend bien, où il y a les meilleures marges à se faire, et donc ils peuvent mettre leurs équipes de développeurs de produits très rapidement derrière un produit. Combien de copies des petits écoliers ? Ouais, tout à fait. Donc, avant de vous offusquer, c'est un phénomène normal. N'empêche que ça fait mal au cul. Et alors, je vous la montre sans le son, mais je vous invite à aller voir la vidéo qu'ont fait les gens de chez Peak Design et la réaction qu'ils ont eue quand ils ont découvert le truc. Et je vais vous décrire la vidéo parce que je pense aussi aux gens qui nous écoutent en audio. Ils ont pris le contre-pied. Ils montrent les deux produits et c'est vrai que les similarités entre les deux produits sont assez folles. Voilà. Amazon a même un peu copié le look de la petite étiquette en cuir sur le côté, etc. Mais dans cette vidéo, en fait, ils ont décidé de faire la pub du produit Amazon en critiquant leur propre produit. Mais bien sûr, au second degré. En disant, vous en avez marre de payer trop cher pour une marque qui a pris 4 ans à développer son produit, qui a gagné de nombreux prix, qui utilise des composants premium, qui est garanti à vie. Vous en avez marre de payer le prix fort. Achetez notre produit qui est fait avec du mauvais plastique, qui n'a demandé zéro développement. Là, il caricature l'équipe de développement d'Amazon Basic, qui en gros, avec une feuille de calque, copie leur produit. Et là, ils montrent toutes leurs récompenses. Ils disent, c'est trop cher payé pour toutes ces récompenses, machin. Et c'est drôle parce que justement, ils prennent vraiment le contre-pied du truc. Est-ce que la version Amazon est aussi solide que l'original? Déjà, je vais te dire une chose. Il y a un truc, et oui, j'adore Peak Design, mais il y a un truc, faut être objectif. Et j'ai rien contre la... Moi aussi, j'ai quelques produits Amazon Basic. J'ai des câbles Amazon Basic. Mais... Là, dans le cas de Peak Design, les sacs Peak Design sont vraiment garantis à vie. Vous avez une fermeture éclair, et ça m'est arrivé avec un sling. J'ai pété une fermeture éclair. J'ai envoyé la photo à Peak Design, ils m'ont renvoyé un produit tout neuf, sans même me demander d'envoyer l'ancien, en me disant, pense à recycler ton ancien, soit t'arrives à le réparer, tu le donnes à quelqu'un, soit tu l'utilises comme sac pour ranger des choses chez toi. Mais ne le jette pas à la poubelle. Pense à la planète. Ils sont très écolos hein, chez Peak Design. C'est des montagnards, c'est des sportifs. Voilà. Mais la garantie à vie n'est pas un vain mot. Donc moi, j'ai aucun problème pour payer 80 $ parce qu'il vaut 90 $. Il vaut une centaine d'euros hein, le sling. Ça dépend les modèles. Et celui d'Amazon vaut 30 $, une quarantaine d'euros. Donc oui, c'est moitié moins cher. Mais vous avez un produit moitié moins bien. Mais, encore une fois, pourquoi pas? Mais comprenez mon discours. C'est exactement le même que j'ai sur les smartphones. Comprenez que si vous achetez un sac à 40 €, vous en avez pour 40 €. Ce qui m'exaspère le plus en ce moment dans le monde, dans la naïveté de certains en consommation, c'est de penser qu'ils peuvent avoir le même produit à 40 € qu'à 100 €. Ça va être la même chose. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais certains ont réussi à faire des produits aussi bien et deux fois moins chers. Un, c'est extrêmement rare, et il y a toujours un niveau de compromis. Ça n'exclut pas que certaines marques font payer trop cher certains de leurs produits. Ok, on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, dans 90% des cas, si vous avez un produit qui semble équivalent à moitié moins cher, il y a des concessions qui ont été faites. Tu vois, si tu dis ça fait pas la moitié de sa fonction de sac, qu'est-ce qu'un sac et qu'est-ce que vous attendez d'un sac? C'est ça la vraie question. Si effectivement un sac photo, c'est un truc que vous utilisez 3 fois par an pour les vacances, est-ce que vous avez besoin de mettre 100 € dans un sac Peak Design? Peut-être pas. Peut-être que le Amazon Basic peut suffire. Mais si par contre vous êtes du genre à trimballer votre sac photo au moins 2 à 3 fois par semaine, là je vous conseille de mettre 100 € dedans. Parce que votre appareil vaut beaucoup plus cher que le sac. Et quand je vois des gens s'acheter des appareils à 3 000 € et les foutre dans un sac qui vaut 15 € avec des fermetures éclair en plastoc qui vont craquer comme de rien, ça m'énerve. Ou qu'ils mettent ça sur des trépieds à 15 balles en plastoc, putain, mais dépense pas 3 000 € dans un boîtier pour acheter un trépied à 15 €, quoi. Et derrière, venir te plaindre que ton boîtier s'est cassé la gueule. C'est fou. Ça m'énerve. Oui, mais le problème avec les abus, GPIF, je comprends, hein, les gens me disent « Oui, mais il y a des marques qui abusent. » Mais dans la tête de certains d'entre vous, et vous n'allez pas me dire le contraire, vous pensez que toutes les marques abusent. Et que si c'est cher, c'est forcément trop cher. Et il suffit qu'on vous présente une Camelot à côté qui vaut 2 fois moins cher pour que ça vous renforce dans l'idée que le fabricant, l'autre, c'est beaucoup trop cher. que forcément vous allez avoir la même qualité deux fois moins cher. Notre esprit a été vérolé par ce marketing des marques blanches et des copieurs. Donc méfiez-vous de ça. Non, moi je pense ça juste d'Apple. Mais même Apple, on pourrait débattre. Il y a deux choses que vous oubliez dans l'achat d'un produit Apple. Un, l'Argus. Un Apple, ordinateur, smartphone, se revend extrêmement bien. Et deuxièmement, le SAV. Le SAV d'Apple, ils sont quand même très très bons. Ben, ça, oui, il y a une répercussion dans les coûts. Et alors, je suis d'accord avec vous, sur certains produits Apple, vous avez la taxe Apple de 30%. Et ça ne les vaut pas, même en comprenant le SAV, la recherche et le développement et tout. Mais je pense plutôt à des produits comme l'iPad aujourd'hui. Je ne parle pas de l'iPad Pro, l'iPad. Je parle de l'iPhone SE. Et là, je peux vous garantir, je ne pense pas qu'Apple se fasse 30% de marge dessus. Quand vous achetez cher, vous n'allez pas dire c'est de la merde. Vous avez déjà vu une personne qui paye cher et dit que c'est de la merde. Oui, moi. Si par exemple j'achète un produit, et je l'ai déjà fait hein, ici, il y a des produits que j'ai testés, ils valent cher et c'est de la merde pourtant. Et ça, j'hésiterai jamais à vous le dire parce que ça me révolte plus que tout, quoi. J'essaie de trouver un exemple de produit trop cher. Autre qu'Apple. Un produit trop cher pour ce que ça fait. Ou des qualités de finition, ou quoi que ce soit. J'en ai pas là autour de moi auquel je penserais de manière flagrante. Si c'est un bon exemple, même si c'est Apple. Les câbles Apple, vous me verrez jamais vous conseiller d'acheter un chargeur ou un câble Apple. C'est de la merde et ça vaut cher. Et là, pour le coup, Apple prend vraiment les gens pour des pigeons. Prenez plutôt des alternatives. J'ai pas des trucs ici en câble à vous montrer. Mais n'achetez pas vos câbles chez Apple. Moi, j'ai quasiment aucun câble de chez Apple. J'ai pas des choses intéressantes à vous montrer là en câble, en chargeur. Non, hélas, non. Non, mais voilà, par exemple, je vous ai beaucoup parlé de ce chargeur-là. C'est du OK. Ce chargeur-là, c'est bien mieux que les chargeurs Apple pour charger votre iPad et votre iPhone. Hein. Bien, bien mieux. Alors, je sais pas, les câbles IKEA, j'ai jamais testé. Donc voilà, le message du jour est « cher ne veut pas dire trop cher ». Apprenez à comprendre ce que vous achetez, à analyser vos besoins et de ne pas raisonner juste au moment de l'achat. Le prix d'un produit, c'est sa longévité, son utilisation, sa qualité de finition. Donc, un bas prix peut être une vertu si le produit a un rapport qualité-prix intéressant. Ah, Léo a dégainé le lien du chargeur. Merci beaucoup, Léo. Et être un acheteur consciencieux, raisonnable et éveillé, hein, et c'est ce que j'espère sur la chaîne, c'est de qu'on soit en acteur consommateur responsable. Pour moi, c'est pas forcément chercher que les bas prix. Voilà. Où est l'aspect social dans ton analyse ? Bah, est-ce que l'aspect social, c'est de dire les gens qui ont peu de revenus ne peut acheter des produits que pas chers et donc forcément ils ont des produits de merde. Justement, je pense qu'il y a une tromperie sociale dans les bas prix. on donne l'illusion aux gens de pouvoir acheter des produits équivalents à des produits chers à des prix, et ils ont une expérience détériorée. Donc je trouve pas que ça soit une œuvre sociale de la part des constructeurs. Vraiment pas. Il vaut mieux économiser et acheter un produit qui donne satisfaction et qui dure. Jérôme, je te rejoins, mais après, ce n'est pas toujours vrai non plus. Non, mais bien évidemment, je vous ai parlé des pourcentages de chances que ça arrive. Il y a des... Merci beaucoup, Tabouil, pour ton Prime. Bien évidemment qu'il y a des marques qui vendent des produits beaucoup trop chers par rapport à leur qualité. Et bien évidemment qu'il y a aussi des marques qui font des produits pas chers qui sont de très bonne qualité. Mais je veux vous dire, allez, en étant optimiste, ça concerne 10% des produits. Tout le reste des produits, faut arrêter de croire que tous les vendeurs sont des arnaqueurs et tous les fabricants sont des arnaqueurs. Tout le reste des produits, vous en avez pour votre argent. Donc sachez que quand vous achetez pas cher, ne vous attendez pas une qualité de ouf et on tombe vite dans le produit jetable. Et les produits jetables, au-delà des problèmes sociaux, on a les problèmes écologiques aussi, et qui sont d'ailleurs étroitement liés. Donc acheter du pas cher qui va être jeté derrière très vite, le prix pour la planète risque d'être élevé pour des produits pas chers. Le même produit bas de gamme acheté trois fois vaut plus cher qu'un produit moyen qui ne change pas. Tout à fait. Et ça, mais bon, je pense qu'il y a aussi... Je terminerai là-dessus avant qu'on passe au fac. Je pense que c'est une question de maturité et d'âge. Moi, le premier, quand j'étais étudiant, je me suis acheté des t-shirts à 2 euros. J'étais obsédé par les trucs pas chers, avec cette espèce de fierté de dire « Hey, toi, là, le truc, espèce de couillon que t'as acheté 100 euros, regarde, j'ai la même chose pour 2 euros. » Et là, le truc me tombait. Et après, voilà, il y a une expérience de la consommation. Moi, ça le faisait beaucoup sur les vêtements. J'ai acheté des chemises pas chères quand j'ai commencé à m'acheter mes premières chemises. Et puis, au bout de 2 lavages, mes chemises perdaient leur couleur ou un bouton ou machin. Donc, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que je mette un peu plus cher dans une chemise pour pas avoir de la merde. J'ai compris aussi qu'il y avait des chemises qui étaient beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles étaient. Vous voyez, le marché de la mode est assez intéressant pour ça, parce que c'est un marché assez extrême. Payer pour la qualité, mais attention, pas payer pour la marque. Sauf si ce que tu recherches, c'est un effet de marque. Donc, il y a un apprentissage. Et c'est pareil, les sacs photos, j'ai été comme beaucoup d'entre vous, j'ai acheté le pire sac photo de ma vie au début, parce que je voulais pas dépenser d'argent, j'avais déjà claqué de l'argent sur mon appareil photo et sur mon objectif. On m'aura pas deux fois. J'ai acheté un sac à 10 euros, un truc. La bretelle, elle a lâché au bout de 2 mois, quoi. Faut arrêter d'acheter des produits et retourner au champ faire notre pain. Tout le monde n'est pas doué en cuisine ou en boulangerie. Après, tu as des intras, ok, à 40 euros, comme les AirPods Pro. Je ne les ai pas testés. Je peux déjà te dire, je pense que l'expérience d'appairage n'est pas la même. Donc, je sais, il y a plein de YouTubeurs qui vont vous mettre des vidéos, c'est pareil et ça vaut 2 fois moins cher. Parce que ça génère de la vue de dire ça. Mais je te parle même pas de la qualité audio. Ok, admettons, je ne les ai pas testés. Qu'il y ait des écouteurs OK qui sont aussi bien que les AirPods Pro. Moi, je vais te dire, la qualité des AirPods Pro n'est pas que l'audio. La qualité des AirPods Pro, c'est son appairage, de pouvoir switcher entre ton iPhone et ton iPad sans que tu aies rien à faire, une certaine finition, un boîtier qui est complètement impeccable, et tu perds jamais ou quasiment jamais ton Bluetooth avec des AirPods Pro. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité audio du produit. Et quid de la batterie? Mais peut-être, je ne dis pas que ça n'existe pas. des produits qui font aussi bien que des produits plus chers. Mais comprenez bien que c'est assez rare. C'est assez rare. Le bon marché coûte cher en fait. Les youtubeurs qui vendent des faux AirPods font du dropshipping. Il y a ça, mais après, voilà. Et c'est pas méchant hein, ce que je veux dire. Chacun fait son business comme il peut. Mais vous faites une vidéo avec un produit qui vaut 3 fois moins cher qu'un produit d'origine en disant oh « Je vous fais une tête de youtubeur sur sa vignette. » Je me moque de moi-même. Hein, je me moque pas de mes collègues. Hein. Ces deux produits sont équivalents, c'est incroyable. Voilà, vous faites de la vue. Et ça, je l'ai dit, hein, et c'est tout à fait vrai. Nous, les testeurs, et il faut être humble, on va jamais vous parler de la durabilité des produits parce qu'on peut pas. Vous voulez les vidéos avant même que les produits sortent et vous voudriez qu'on vous donne un avis sur la durabilité du produit. On fait comment, nous? Une machine à avancer dans le temps? Maryse va bien. Maryse revient mercredi, ne vous inquiétez pas. Ne pas voir ce que les... Non mais... Bon, et après on passe vraiment au camp de fac. Je vous fais une vidéo en vous disant les AirPods, c'est mieux que tout. À côté, je vous fais une vidéo en disant j'ai trouvé un produit à 20 euros qui fait aussi bien que les AirPods. Sur quelle vidéo vous allez cliquer? Soyez francs. Après, les influenceurs touchent une commission sur le prix. Quand c'est cher, c'est mieux. Non. Didi Cartman, t'as partiellement raison et partiellement tort. Parce que justement, un produit pas cher, plus de gens vont l'acheter. Donc, comme on a une commission sur chaque vente, si on utilise un lien d'affiliation, il est parfois beaucoup plus intéressant pour nous de vous parler d'un produit pas cher, parce qu'on sait que beaucoup plus de gens vont l'acheter. Voilà. Non, bon, alors, ok, ah, vous êtes trop gentil, j'ai cliqué sur les deux, parce que c'est Naotech. Vous n'êtes pas franc, vous me mentez. Bah tu te jettes par terre, tu le piétines et voilà le test de durabilité. Alors je précise à ceux qui me disent Jérôme, on entend tes dings de notification. Le problème c'est que certains membres de ma famille et des très proches sont dans ma liste VIP. Donc ouais, parfois j'ai une notif qui passe, même quand je suis en mode pas de notif, parce que j'ai besoin d'avoir les notifs des VIP. Et là j'en ai beaucoup, et je sais pourquoi, c'est Marion qui m'envoie des apparts à visiter. Salut à toi, Oli Bro Motocycle. Nous, on fait une revue de presse sur la technologie tous les matins, de 8h à 9h30. Et tu tombes en plein dedans. Allez, il est temps qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission, parce qu'il est 9h24. On va passer au camp de fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Les camps de fac ce matin, est-ce que vous avez des questions? Mais qui sont les merveilleux sponsors Naotech QG? Bien, notre merveilleux sponsor, c'est ExpressVPN, bien sûr. Quelle question Shadow, si Jérôme, si Shadow vient à disparaître, tu vas te monter un PC pour jouer? Bah, je serai obligé, mais ça me fait chier. Ça va bien, ça va et vous? Salut Jérôme, est-ce que tu utilises Streamlabs pour les streams? Non, on utilise OBS. Mais Streamlabs est très bien aussi. Hein, et moins compliqué qu'OBS. Vas-tu acheter l'Everyday Sling d'Amazon Basic pour faire un comparatif? Peut-être, mais il n'est pas dispo en France. C'est quelle couleur ton bracelet d'Apple Watch Nike Sport? Ça passe bien quand on n'est pas en jogging. Ah ouais, je suis un ultra sportif. Non, alors j'aime bien parce que... attends, je passe en caméra 2. J'aime bien ces bracelets Nike parce qu'ils sont très aérés. Il y a des petits trous dedans. Et ils sont assez agréables. Et bah, la couleur, c'est kaki, quoi. C'est un kaki. Kaki militaire. Voilà. C'est kaki. Pourquoi aucun youtubeur sponsor par les coques de protection ne font de tests de chute pour prouver leur efficacité? Ça, un créatif l'a très bien expliqué dans sa vidéo. Au début, Rhinoshin s'est fait connaître par la solidité de ses coques. Le problème, c'est que les youtubeurs, pour faire un peu des vues, sont allés un petit peu trop loin en lançant des Rhino Shield à travers des hélicoptères sur des... Or, et moi, dans ma vidéo non sponsor par Rhino Shield, parce que souvenez-vous quand même, hein, sur la chaîne, la première fois qu'on a parlé de Rhino Shield, j'étais pas payé par Rhino Shield. Parce que justement, Rhino Shield m'avait contacté et j'avais dit, avant de faire quoi que ce soit avec vous, je veux vraiment tester vos coques et dire à mon audience ce que je pense de vos coques avant que vous me payiez. Donc, vous me donnez une coque pendant 6 mois, vous me payez pas, je fais mon test pendant 6 mois de solidité de votre coque et j'en fais. Et donc, ma première vidéo, qui est d'ailleurs la première vidéo vue de la chaîne, j'avais dit une chose, c'est solide, mais l'invulnérabilité n'existe pas. Donc, non, c'est pas invulnérable. Et d'un point de vue légal, de toute façon, Rhino Shield ne peut pas être invulnérable. Il y a toujours un risque de casse de votre smartphone. Donc, aujourd'hui, Rhino Shield, quand il nous sponsorise et qu'il nous brief, il nous demande de parler, bien sûr, de la solidité, mais ce n'est plus leur argument majeur, parce qu'ils ont peur que les youtubeurs aillent un peu trop loin, justement en faisant des vidéos excessives sur la solidité. Tu conseilles le Sony A7 II, très bon téléphone. Téléphone, pff, très bon appareil photo. Question Peak Design, c'est waterproof? Non, c'est weatherproof. Tu peux pas le lancer dans l'eau, c'est pas étanche, mais ça résiste très bien aux intempéries. Une grosse journée de pluie, j'en ai eu au Vietnam, pas une goutte sur mon matériel. Les fermetures éclair ont un truc pour empêcher l'eau de rentrer dans la fermeture éclair. J'ai oublié le nom du gestionnaire de mots de passe gratuit que tu recommandes. Gratuit, on en recommande un, nous, gratuit? Demande à Guillaume. Je cherche une alternative à Gmail, à plus de protection. Demande à Guillaume aussi. On va bientôt sortir une vidéo là-dessus. Jérôme, j'ai vu sur le site Peak Design qu'on ne voyait plus les coques et les accessoires pour iPhone. J'ai pas plus d'infos. Le projet est en... C'est normal, ils sont pas en vente. Pour l'instant, ils sont en Kickstarter. AirPods Pro ou copie 2 fois moins cher, aussi bien? Non, pas aussi bien. Un conseil de clavier silencieux? Je connais pas de clavier silencieux, je peux pas t'aider. Si Shadow doit être acheté, tu aimerais par qui opérateur? C'est vraiment pas la peine de faire ce genre de spéculation. Moi, je l'avais dit au début de Shadow, j'aurais aimé qu'Apple rachète Shadow. Parce que putain, un Shadow dans tous les Macs, ça serait top. Tu penses quoi de Stadia? Je pense qu'il faut pas vendre la peau de Stadia avant de l'avoir tué. Oui, ils sont un peu dans la sauce. Google s'y est mal pris, comme quoi c'est pas si facile de faire du cloud gaming. Je suis pas certain que Google va l'abandonner dans l'année, comme disent certains. On verra. Y aura-t-il une pièce streaming dans le futur à part? Je vous regarde pas. Jérôme, connais-tu des modules de sacs photo qu'on puisse mettre dans des sacs de montagne classiques? Oui, ça existe. Tu peux transformer un sac classique en sac photo avec des trucs, mais j'ai jamais testé. Mais ça existe. Quelle marque de smartphone conseillerais-tu pour une personne âgée? iPhone. Et c'est pas du pro Apple. Je conseillerais à des personnes âgées, au lieu de leur acheter un PC, vous leur prenez un iPad. Et pour un smartphone, vous prenez un iPhone. Beaucoup plus simple à paramétrer et à expliquer. Désolé, hein. On me dit le gestionnaire mot de passe gratuit, c'est Bitwarden. Ok. C'est con que Rhinoshield n'ait pas encore introduit l'aimant au dos de leur coque. Ça viendra peut-être, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos sur le Rhinoshield MagSafe. Non, j'ai pas testé la 7S3 sur la chaîne. Demandez plutôt à Guillaume pour les objectifs Sony, parce que lui, il est utilisateur Sony. Quelle marque de smartphone? Oui, là, je suis revenu à la question. Jérôme, connais-tu des modules? Ouais, ça aussi. Pourquoi mes questions sont en boucle là? Jérôme, est-ce que tu conseilles d'acheter un iPhone 11 reconditionné sur Amazon? Très bon choix. iPhone 11, très bien. T'as pas besoin d'acheter le 12. Je cherche une alternative à Gmail avec moins de stockage de données, plus de. Ouais, j'ai déjà lu cette. Alors, je descends tout en bas. GeForce Now va bouffer Stadia. C'est marrant, hein, les termes que vous utilisez quand on parle de tech. Ouais, tel truc va exploser, tel truc va bouffer. Oh, il a pris cher. Les processeurs Intel ont pris cher. C'est marrant, ce vocabulaire guerrier, destructeur. Et il faut que les trucs soient annihilés. L'appareil photo du Xiaomi annihilé. Hey. Ça, les gars, vous êtes en train de tomber dans le discours marketing. Il faut comprendre que les marques veulent que vous vous affrontiez sur les qualités de leurs produits. Ne tombez pas dans le panneau. Vous êtes en train de faire le jeu du marketing. Les fanboys, c'est une création du marketing. Comprenez-le bien et mettez-vous ça bien dans la tête. Putain, il est 9h32, il faut que je vous lâche. Faut que je coupe le live. Allez, je vous fais des bisous. J'ai pas pu prendre toutes les questions. On reprend lundi. Lundi, 8h, rendez-vous sur la chaîne. Il y aura peut-être une vidéo aujourd'hui sur la chaîne principale. Peut-être lundi. On va voir au niveau des sorties. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Peut-être un peu de stream ce soir. Si je stream ce soir, ça sera du Valheim solo. Parce que j'ai pas le temps d'organiser pour qu'on joue ensemble. Peut-être un peu de stream ce soir. On verra. Si vous êtes sage. Enfin, surtout si j'ai le temps. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. On va faire un raid avant de partir. Parce qu'on est, quand même pas des malpropres. Et qu'il y a plein de chaînes beaucoup plus intéressantes que nous à découvrir. Enfin, aussi intéressantes que nous à découvrir. Qui on a ce matin? Eh ben, un petit flonflon musique. Allez. Un petit raid sur Flonflon Musique. Je lance le générique. À la fin du générique, le raid aura lieu. Pourquoi ma souris marche pas? Je lance le générique de fin et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde.